Nous sommes le lundi 8 septembre 1986. Cela fait 535 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 474 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 184 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, et 124 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir, nous l'avons appris il y a quelques dizaines de minutes, un attentat à l'hôtel de ville de Paris. Attentat commis dans le bureau de poste de l'hôtel de ville de Paris. Premier bilan, un mort, 10 blessés.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. 17h25, très exactement cet après-midi à Paris, une nouvelle bombe explose dans un grand magasin de la rue de Rennes à Paris. Le bilan provisoire est très lourd, 5 morts, une cinquantaine de blessés.
Il s'agit donc bien en réalité d'une guerre. D'une guerre subversive, mais d'une guerre.
Qui fait la guerre à la France? Dans quel but? Otage au Liban? Attentat à Paris? Meurtre symbolique? La confusion est totale. Quand le 17 septembre 1986, Georges Besse est assassiné, on le présente comme le PDG de Renault.
Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Besse, le PDG de Renault. Qui peut avoir signé cet attentat pour l'instant non revendiqué?
Les terroristes manient les symboles. Ils ne frappent pas au hasard. Georges Besse n'est patron de Renault que depuis 18 mois. Toute sa vie, toute sa carrière, c'est le nucléaire. Et sa grande œuvre, c'est Eurodif, vaste complexe européen construit en partenariat avec l'Iran pour la production massive d'uranium enrichi.
Lorsque j'étais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, j'étais de par ma fonction membre du comité de l'énergie atomique. Et j'ai donc par là approché de près beaucoup des affaires nucléaires de la France. Certains dossiers très sensibles, tout ne peut pas être dit, et tout ne peut pas être dit à un certain moment. Mais l'idée que dans la relation extérieure de la France, il y aurait des dossiers sur lesquels rien ne pourrait jamais être dit, est une idée fausse.
En France, le nucléaire est géré par le premier cercle de l'État. L'atome est une arme politique et diplomatique, à la discrétion du président. Dans cet univers, le silence est la règle. Pourtant, la République atomique est fière de son histoire. Pierre et Marie Curie, les pionniers français de l'atome, reposent au Panthéon, le mausolée réservé aux grandes figures de la France. En 1939, leur gendre, Frédéric Joliot-Curie, dépose deux brevets. L'un sur la production d'énergie nucléaire, l'autre pour la fabrication d'une charge explosive atomique. Mais déjà, les Américains font la course en tête, en associant à leur programme les Anglais et les Canadiens.
Trois mois après la fin de la guerre, il y a eu, en novembre 1945, une conférence au sommet où les trois alliés anglo-saxons de la guerre ont décidé de continuer à garder les données secrètes et de continuer à avoir une sorte de monopole de l'achat de l'uranium dans le monde entier par une agence d'approvisionnement qu'ils avaient créée.
Bertrand Goldschmidt est un des premiers membres du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, fondé en 1945 par le général de Gaulle.
Et il faut bien voir que les deux ingrédients indispensables pour tout effort atomique, pour démarrer tout effort atomique, sont d'une part l'uranium, d'autre part les connaissances.
La France d'après-guerre est en ruine. Elle dépend entièrement de l'aide américaine. La guerre froide bat son plein. En 1949, l'Union soviétique accède à son tour à la puissance atomique. La France bâtit à Saclay un centre de recherche nucléaire. l'Amérique décide de renforcer ses alliés et la 4e République reçoit des crédits spéciaux votés par le Congrès américain. Saclay devient le plus grand centre de recherche et de formation des pays de l'Alliance occidentale. Parmi les savants étrangers travaillant à Saclay se trouve le futur dirigeant du programme nucléaire iranien, Akbar Etemad.
Pendant un certain nombre d'années, on cherchait la technologie qu'il fallait appliquer pour faire de l'énergie électrique au moyen du nucléaire. Et que, en fin de compte, les Américains ont gagné la bataille, non pas parce qu'ils étaient plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils avaient, pour leurs besoins militaires, ils avaient construit des sous-marins atomiques, Westinghouse, qui étaient impliqués dans le projet des sous-marins. Eux, ils se sont mis à présenter le prototype d'un projet civil pour produire de l'électricité avec l'atome. Donc, autrement dit, ils ont développé rapidement la technologie de l'eau légère. Il se trouve que dans la nature, si vous utilisez l'eau légère, vous ne pouvez pas utiliser l'uranium naturel comme combustible. Il fallait enrichir l'uranium. Donc les Américains, ils se sont mis à enrichir l'uranium à grande échelle. Ils l'avaient fait déjà avant, pendant la guerre, pour fabriquer les bombes à petite échelle, mais cette fois, c'était à grande échelle.
This time, I come armed with something far more powerful. The goodwill of America. To see whether it is not possible to find some road that will lead all mankind into a more tranquil, better, fuller way of life. I thank you very much.
Eisenhower a lancé Atom for Peace, Atom pour la paix, un programme vaste et extrêmement généreux au début, en voulant dire que maintenant que nous avons une technologie qui peut donner au monde entier, à l'humanité, l'énergie nécessaire pour subvenir à tous ses besoins, ben, il faut le donner à tout le monde.
There is little doubt that many atomic power stations will be established in different parts of the world during the next 10 years. There is no longer any question that atomic energy can be used for power generation. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace.
In 1955, when Eisenhower talked about atoms for peace, a lot of people, including myself, said this is the classic account of swords into plowshares, you know, the Bible story. And for a period, I believed that. But as it went on, I realized three things, that it wasn't cheap, as we were told, it was terribly expensive. It wasn't safe, Three Mile Island, Chernobyl, and so on, wherever you look, and it wasn't peaceful. It was all about developing plutonium for the bomb. And our own civil power stations, while I was there, without my being told as a responsible minister, was going to America for their atomic program. And the Americans at the heart of all this always have been. Our bomb is entirely dependent on the United States. And although France claimed to have developed the Forster Frappe separately, and that may or may not be the case.
Voici maintenant que leur âge est proche. Vous vivez dans le blocus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française.
En 1960, la France a sa bombe, mais elle n'a pas le droit de s'en servir sans l'aval des Américains.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation.
Officiellement, la crise des missiles de Cuba contraint Américains et Soviétiques à renoncer à l'installation d'armes atomiques chez leurs alliés. De Gaulle, en réclamant l'autonomie de la France, va servir les États-Unis.
La guerre froide, à moi, disait que voilà l'Europe qui était le maître du monde, au pied des Américains. Alors, quel prix ils vont payer, comment payer et comment un jour, le moment venu, ils pourraient s'en débarrasser, se libérer des Américains.
En ayant sa propre source d'uranium enrichi, répondra à la télévision gaulliste.
Quand l'Europe aura sa source d'uranium enrichi, car il est bien entendu que nous fournirons à l'Europe l'uranium dont elle pourrait avoir besoin, avec les réacteurs en plus s'il le faut, ce sera alors le temps de l'association de partenaires égaux, que décrivait le président américain, qui précisait de plus que pour les États-Unis, une Europe riche n'était pas une rivale, mais une partenaire. Et je dis bien une partenaire et non plus une protégée.
De Gaulle rejette publiquement l'offre d'assistance technologique que lui fait Kennedy pour son programme nucléaire. Il en dénonce les conditions trop contraignantes, mais les ponts ne sont jamais rompus. George Bess, jeune et brillant ingénieur, est nommé à Pierre Latte. Il va y superviser la construction d'une usine destinée à pourvoir aux besoins de la France en uranium enrichi. Les Américains peaufinent leur stratégie d'endiguement des pays du pacte de Varsovie. À l'ouest, la France joue un rôle essentiel. Au sud, ce rôle est dévolu à la Turquie. Et plus à l'est, l'Iran complète l'encerclement. Ces pays reçoivent en conséquence tout le soutien nécessaire des États-Unis. En 1963, lorsque De Gaulle atterrit à Téhéran, l'Iran est sous la domination des Américains. Et c'est grâce à la CIA que le Shah se maintient au pouvoir.
Le général De Gaulle, en uniforme, vous le remarquez, descend maintenant les escaliers d'honneur entièrement fleuris aux couleurs françaises et iraniennes. Milite d'émotion pour le souverain et pour le président de la République française. Il fait encore un beau soleil sur cet aéroport de Téhéran, tandis que l'impératrice et Madame de Gaulle écoutent religieusement elle aussi les hymnes.
La France et l'Iran cherchent à accroître leur autonomie. Derrière la rhétorique des discours officiels, la partie est délicate, tant la tutelle américaine est présente.
Votre volonté de rester vous-même, simplement, mais fermement, sans méconnaître, bien entendu, vos engagements ni vos amitiés, cela répond d'une manière directe à l'attitude que la France adopte pour son propre compte.
Au cours de ce voyage, De Gaulle jette les bases de la diplomatie de la Ve République. La France va vendre à l'étranger des installations atomiques dont les États-Unis ne veulent pas assumer directement la paternité.
Je souhaite que notre amitié franco-iranienne retrouve de ce fait une base encore plus forte.
J'en suis certain.
Je vous en remercie, sire.
À l'époque, l'Iran avait acheté un petit réacteur nucléaire qui était pratiquement un don des États-Unis. C'était du genre de réacteur que les Américains avaient exposé pour la première fois à Genève lors de la conférence sur l'énergie atomique des Nations Unies en 1955.
Eisenhower mistakenly believed, in my view, that we could spread civilian nuclear technology around the world, proliferate that technology, and maintain an iron barrier between the civilian technologies and the military technologies. And I think as the years went on, it became very clear that that iron barrier did not exist, and that the technologies were flowing very freely between civilian nuclear programs and military nuclear programs.
En 1964, les Chinois accèdent à leur tour à la bombe atomique. Et cinq pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont tous désormais des puissances nucléaires. On commence à parler de prolifération.
No American should treat this matter lightly. Until this week, only four powers had entered the dangerous world of nuclear explosions. Whatever their differences, all four are sober and serious states with long experience as major powers in the modern world. Communist China has no such experience. Its nuclear pretensions are both expensive and cruel to its people.
En 1968, les États-Unis et l'Union soviétique signent le traité de non-prolifération. La France n'y adhère pas. Les États-Unis vont contourner ce traité en confiant à d'autres pays le soin de commercialiser leur propre technologie nucléaire. Son partenaire privilégié dans cette activité hautement sensible, c'est la France.
Let's raise our glasses to the President of France. Vive la France!
Ce que veut dire votre venue à ce dîner, ce n'est pas une prise de position sur tel ou tel problème particulier, c'est la volonté de manifester aux yeux de tous que la France et les États-Unis sont et resteront envers et contre tout des alliés et des ennemis.
Sous Georges Pompidou, la coopération franco-américaine devient plus intense. Les Français adoptent pour leur centrale nucléaire le procédé Westinghouse. Westinghouse est une multinationale nucléaire américaine qui détient 45% des parts de la société française de construction de centrales nucléaires, Framatome.
Pour utiliser la technologie américaine à l'étranger, il fallait l'accord de la société américaine. Or, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, Westinghouse donnait son accord parce que ça lui rapportait de l'argent, mais ne le faisait pas sans avoir l'aval du gouvernement américain. Donc là, il y avait des tractations qui étaient là encore gouvernementales, n'est-ce pas ? Nous n'intervenions pas à ce niveau-là. Nous, à un moment donné, Westinghouse nous disait, vous pouvez y aller, et après ça, on payait les droits de licence. Ce qui n'empêchait pas Westinghouse de pouvoir être concurrent. En réalité, en Iran, nous ne les avons pratiquement pas rencontrés.
Darius, l'un des fondateurs de l'Empire perse, a dit il y a 2500 ans, la joie qui convient au roi, c'est la grandeur. Eh bien, le chat d'Iran illustre aujourd'hui cette pensée par la parade militaire de Persépolis. Fait dont le coup de total soulève bien des critiques ici et là. Mais l'Iran célèbre aussi cet anniversaire par des inaugurations d'écoles, de routes, de barrages. Troisième producteur de pétrole au monde, l'Iran d'aujourd'hui a les moyens.
Le chat peut parader sans crainte. Il est le gendarme des intérêts pétroliers des Occidentaux dans le golfe Persique. Puissamment armé par les États-Unis, il ne lui manque que la puissance atomique. Des discussions s'engagent entre la France et l'Iran.
Un matin, on me dit que le Shah a décidé de lancer un programme vaste de production d'énergie nucléaire en Iran. On s'est assis pendant 2 heures, il m'a expliqué de quoi il s'agissait dans sa tête. Il a dit, ma foi, contre l'Union soviétique, une bombe ou 10 bombes ou 100 bombes iraniennes n'ont pas de sens. Alors ce n'est pas pour l'Union soviétique que je vais faire des bombes nucléaires. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas pour l'Irak ou le Pakistan que je vais faire des bombes nucléaires. Ça n'a pas de sens. Donc pour le moment, ça n'a pas de sens. Tout ce que ça peut faire, c'est nous compliquer la vie avec des Occidentaux et mettre en péril notre programme civil. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un pays vit dans le temps. Une région vit dans le temps. Un monde vit dans le temps. Et dans le temps, tout change. Et que si d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, on se réveillait un bon matin, voir le Pakistan à la bombe nucléaire, ou l'Irak à la bombe nucléaire, ou la Turquie à la bombe nucléaire, évidemment tout change.
L'hiver 1973, les pays producteurs de pétrole, sous l'impulsion de l'Iran et des monarchies arabes du Golfe, multiplient par 4 le prix du baril. On parle alors du hold-up du siècle. Le premier choc pétrolier va donner la mesure de la dépendance énergétique des Occidentaux.
la crise du pétrole de 1973 a entraîné la France à changer complètement son programme civil, car nous décidons de construire, de dépendre de plus en plus du nucléaire pour dépendre moins du pétrole, et nous nous lançons dans le grand programme d'électrification d'origine nucléaire, à partir d'ailleurs de réacteurs de type américain. À ce moment-là, il est normal que nous cherchions à, en même temps que nous avons cet énorme effort industriel, à en profiter et exporter industriellement des centrales.
Juin 1974, le Shah est reçu à l'Élysée par Valéry Giscard d'Estaing, à peine élu président de la République. Pétrodollars et contrats nucléaires sont à l'ordre du jour.
Le Shah n'a pas oublié ses dossiers, le dossier nucléaire en particulier. Ce matin, vers 10h30, le Shah arrive en hélicoptère à la centrale nucléaire de Marcoule, à 30 km d'Avignon. Comme à Saclay mardi dernier, l'empereur s'est fait expliquer les particularités de ce centre atomique. Une visite du Shah à Marcoule, qui prend évidemment tout son relief après la commande confirmée hier de 5 centrales nucléaires et après les accords concernant l'approvisionnement de l'Iran en uranium enrichi.
Non seulement nous arrivons à obtenir un contrat de construction d'une centrale, obtenir un contrat de construction d'un grand établissement de recherche nucléaire, mais nous arrivons à convaincre, toujours recherche des dollars, nous arrivons à convaincre les Iraniens de participer à notre usine de séparation isotopique que nous construisons, à Pierre Latte, Rodif.
Monsieur Chirac, qui était à l'époque le Premier ministre en France, a conduit une mission en Iran. Il était invité en Iran. Il est venu avec un certain nombre de ses ministres, et pas des moindres. On s'est mis en discussion avec M. Chirac et ses acolytes, si vous voulez. Et en l'espace de 2 jours, on a sorti les bases d'un accord. Nous voulions 10% de rediff. Pour l'Iran.
Pour l'Iran, ces 10% du capital vont ouvrir droit à 10% des capacités de production d'uranium enrichi. En outre, par un montage juridique complexe, les actionnariats français et iraniens sont inextricablement liés.
L'Iran, en même temps, a signé un accord financier avec le commissaire à l'énergie atomique pour accorder à près $1 milliard au commissariat à l'énergie atomique dans le but de construire l'Eurodif.
Eurodif fournira le combustible pour une centaine de centrales nucléaires. Mais la France n'est pas assez riche pour une telle entreprise. Elle doit constituer une société multinationale. La France s'associe donc à l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Iran.
On était vraiment gâté par la présence d'un manager de premier plan comme Georges Besse à la tête d'Eurodif, qui était vraiment un homme extraordinaire, un talent fou, un dynamisme incroyable. Il faut dire que Georges Besse a mené ce projet dès le début jusqu'à la fin, sans délai de retard et sans augmentation de coût, pour une technologie qui n'était pas encore mise en marche.
En attendant l'uranium enrichi de Rediff, toutes les centrales européennes dépendent des usines d'enrichissement américaines.
Le Premier ministre français, M. Chirac, au terme de ses 3 jours de négociation, a pu prendre quelques détentes et visiter Téhéran. Mission remplie. La coopération économique a fait une percée sans précédent. La France s'implante en Orient. Et les grandes options diplomatiques étant semblables ou convergentes, aucun nuage n'assombrit actuellement les relations entre les deux pays.
Au cours de ses déplacements, Jacques Chirac se rend également en Irak.
Sur l'aéroport de Bagdad, le vice-président Saddam Hussein et Jacques Chirac, au terme d'une visite officielle qui, sur le plan concret, assure à la France une prévision d'au moins 15 milliards de francs de commandes. Il faut dire que les deux pays ont la même conception de l'indépendance nationale, la même méfiance vis-à-vis d'alliés trop puissants, car c'est aussi pour prendre ses distances par rapport à son partenaire soviétique que l'Irak socialiste cherche à diversifier ses échanges commerciaux.
Comme avec l'Iran, la France s'apprête à signer un accord nucléaire avec le gouvernement de Bagdad. La promesse de l'arme atomique semble être un appât suffisant pour éloigner l'Irak de l'Union soviétique.
Il reste qu'au moment de se séparer, les deux hommes d'État ont voulu ostensiblement montrer qu'ils s'entendaient parfaitement.
There was not a wholehearted support for an Iraqi bomb within the French scientist we knew. They always questioned. They were laughing openly, some of them. It's the administrators who wanted the program to go ahead for money and other contracts. There were many French contracts. Actually, we got an order during the time of signing of the reactor to take French first. The attitude I read was, actually, the French people at Saclay and other places we went, most of the attitude was they were trying to get as much money as they can.
This was a bomb plant. The Osirak reactor was a 40-megawatt research reactor that had been specifically designed and was used in France. The carbon copy of this reactor I visited in France, outside of Paris. It was used specifically to produce weapons-grade fuel.
They signed on to provide us with bomb-grade uranium in the fuel, in the reactor fuel, 93% enriched, I believe, 91 or 93% enriched uranium. They were unhappy about this. They got a lot of pressure from Israel and the U.S. about this.
Vous savez que la France est engagée dans une politique active de non-prolifération. C'est-à-dire que nous ne voulons pas contribuer par notre action à l'accroissement du risque nucléaire militaire dans le monde. Or, un certain nombre de techniques nucléaires, à l'heure actuelle, présentent des dangers de prolifération. Et les savants français, les savants du Commissariat à l'énergie atomique, ont mis au point un procédé, ou plus exactement étudié, un procédé nouveau qui diminue très sensiblement les risques de prolifération.
In our view, the scientists, we thought this will remove the pressure from the French, and the screaming the Israelis were doing about our reactor will be less, and there will be less excuse to somehow jeopardize the project. But nobody accepted. We have a deal that will give us a bomb. That's the way they understood it. When we refused that, they somehow, suddenly, the reactor became less secure. There was the incident of blowing up of the core, okay, at the French port, right? And then our scientists started getting killed. One was butchered with a knife Paris, and the other one was poisoned in a French official party.
J'avais demandé à l'ambassade de France, à l'ambassadeur de France à Téhéran, expressément de dire au Quai d'Orsay que l'Iran doit être au courant de tout ce qui se passe entre la France et l'Irak. Et qu'un jour, et si un jour, je comprenais que les Français passaient des équipements à l'Irak à notre insu, qu'on serait en droit de tout arrêter entre la France et l'Iran.
En octobre 1976, quand Giscard d'Estaing se rend en Iran, la situation politique est tendue. Le clergé prêche la révolte. Des émeutes ont déjà éclaté. L'Occident marque ses distances avec un régime trop puissant. La construction des centrales nucléaires est au point mort. Westinghouse tergiverse pour accorder des licences d'exploitation.
Eh bien, sur papier, nous avons fait des accords assez sensationnels.
Qu'est-ce qui manque?
Eh bien, dans les nouveaux accords, je ne sais pas encore, mais je sais que pour les deux centrales atomiques que nous voulions commander en France, ce n'est pas encore fait.
On avait laissé les Américains à l'écart. On était resté avec les Français et les Allemands. Et on avait beaucoup de peur en Iran pour les Allemands et les Français se mettent ensemble, dans le cadre de l'Europe peut-être, et que ceci les amène à limiter leur coopération avec l'Iran. Donc il fallait inventer un compétiteur pour les Allemands et les Français. Le compétiteur de choix, c'était les Anglais.
Well, I had been earlier Minister of Technology, responsible for nuclear power from 1966 to 1970. And that was when I first met Dr. Etemad, who was then Deputy Minister of Education. And I met him again in January 1976. I met him on a number of occasions. And there was a man called Walter Marshall, who was my chief nuclear advisor, although I had to get rid of him in the end because of the role he was playing. But he came to me at one stage and said, I am the Shah's nuclear advisor. So I said, well, I thought you were my nuclear advisor. Oh, no. This is something I'm doing as well. And he tried to persuade me to adopt the American Westinghouse pressure water reactor. And he said, if we did that and launched it in Britain, then the Shah would buy a lot of pressure water reactors. And it was quite clear to me that this was all about the Shah getting nuclear weapons. And I put that to Marshall. He said, oh, well, later maybe, and so on, so on.
Pourquoi que pour vous, ce serait normal, pour l'Allemagne fédérale, ce serait normal, pour l'Angleterre, ce serait normal, même d'avoir des armements atomiques ou à hydrogène, et pour l'Iran, une armée, l'Iran qui n'est pas dans l'OTAN, l'Iran qui n'est pas automatiquement garanti par aucun pays du monde. Pourquoi est-ce que pour l'Iran, le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème et que pour les autres, c'est tout à fait normal?
L'Iran doit devenir dans les prochaines années la cinquième puissance militaire mondiale. Avec 317 avions de combat, des fantômes, des F-5 Northrop, en puissance de feu théorique, sur le papier, l'Iran est devenu la première aviation du Proche-Orient.
Fort de ses pétrodollars et de sa future bombe atomique, le Shah nourrit des ambitions démesurées. Il revendique le leadership d'une immense région qui va des frontières de l'Inde à l'est de l'Afrique, en passant par le Moyen-Orient, et qui englobe les monarchies pétrolières du Golfe Persique. Il veut également devenir le chef de file de tous les pays du tiers-monde. Pour les Américains, c'est inacceptable. À Washington, le Shah est devenu un problème.
Nous avons conclu un contrat avec les Allemands pour construire deux centrales nucléaires dans le sud de l'Iran, à Bushehr. La capacité de ces deux centrales était de 2400 mégawatts, qui était très important à l'époque. Et la construction a commencé, le travail génie civil était fini, l'équipement est arrivé en Iran. Malheureusement, quand l'équipement est arrivé, la révolte avait commencé en Iran. Le gouvernement n'était plus en mesure de maintenir l'or. Et les Allemands, ils ont fait revenir tout l'équipement en Allemagne de nouveau.
L'attitude de l'opposition iranienne se décide ici, à 50 km de Paris.
L'ayatollah Khomeini, expulsé d'Irak où il s'était réfugié 15 ans plus tôt, trouve un accueil complaisant en France. Téhéran bascule dans la révolte. Les grèves paralysent l'économie iranienne. L'armée, contrôlée par la CIA, ne bouge pas.
Chaque événement qui se passe et qui arrive montre que c'est une action tout à fait coordonnée pour contre le régime, contre ce que notre règne a représenté, un Iran indépendant, libre, et qui ne soit pas aux ordres de l'étranger.
Au sommet de la Guadeloupe en 1979, Jimmy Carter confirme à Valéry Giscard d'Estaing que le régime du Shah est condamné.
It's very clear that the Carter administration was speaking with two different voices. On the one hand, you had Carter's national security advisor, Brzezinski, who was telling the Shah, be firm and resist and don't allow Khomeini to come to power, will be there with you. And on the other hand, you had Carter himself, who sent General Heiser to Tehran to negotiate with the army, the Shah's army, the Shah's generals, and tell them, don't intervene, don't go to war, don't fight the opposition in the streets, we don't want blood in the streets, go away quietly and everything will be all right.
Avez-vous un moment ou un autre pensé qu'il allait falloir prendre un virage abrupt, éventuellement démissionner?
Pour arriver à quoi?
Résoudre le problème.
Est-ce que ça résoudrait le problème? Vous savez ce qui se passerait en Iran?
Non.
Ben, réfléchissez un peu.
Je remercie le gouvernement et le peuple français qu'ils prenaient les mesures de sécurité et de me donner la liberté d'expression.
5 février 1979, Khomeini arrive à Téhéran à bord d'un avion spécialement affrété par le gouvernement français. Le Shah a quitté l'Iran 15 jours plus tôt. La révolution islamique est en marche. 2 mois plus tard, le Premier ministre Raymond Barre inaugure l'usine Eurodif à Pierrelatte.
Une réalisation qui assure, qui contribue à l'indépendance énergétique de la France, voilà qui n'est pas négligeable.
Eurodif, c'est la clé de voûte du programme nucléaire français. Il produit un tiers de l'uranium enrichi de la planète.
Dans les années 70, la France s'était engagée à permettre à l'Iran d'acquérir plusieurs grands pans du cycle du nucléaire. Cette coopération s'est bien évidemment interrompue avec la révolution iranienne. Un certain nombre de droits acquis sont donc restés en panne. L'Iran, dès lors qu'il gardait 10% du capital de Rodif, entendait faire valoir ses droits sur la production de Rodif, pour le présent et pour le futur.
François Mitterrand est élu président de la République.
Lors de la transmission des pouvoirs, Valéry Giscard d'Estaing confie à François Mitterrand le détail des accords nucléaires entre la France et les Américains. Le dossier le plus brûlant s'appelle Eurodif. Débarrassés du Shah et de ses ambitions, les Occidentaux souhaitent que la République islamique renonce à son programme nucléaire. Les Français quittent le pays dans le tumulte de la révolution. Mais l'Iran garde ses prétentions et ses parts dans Eurodif.
Les Iraniens n'ont jamais dit simplement, écoutez, on arrête, on veut plus, on vous paye ce qu'on vous doit et puis terminons là, bons amis, ce qui aurait été une solution simple et facile. Mais les Iraniens ont pris le contre-pied de tout ce que faisait le Shah et ont pris des positions qui pour nous étaient totalement inacceptables.
On est à crise d'autant plus ouverte que la guerre irako-iranienne battait son plein et que la France soutenait l'Irak dans ce conflit sans beaucoup d'état d'âme. Je pense que nous avons été certainement, de tous les États européens, le pays le plus déterminé dans ce soutien à l'Irak.
Le 22 septembre 1980, profitant du désordre en Iran et avec le feu vert de l'Occident, Saddam Hussein attaque l'Iran. Tout en soutenant l'Irak, les Occidentaux cherchent à maintenir une guerre d'usure afin d'affaiblir les deux adversaires. C'est ainsi que les États-Unis fournissent secrètement des armes aux Iraniens. Les Français, de leur côté, soutiennent massivement l'armée de Saddam Hussein. Mais lorsque les ambitions atomiques de Bagdad sont sur le point d'aboutir, les Israéliens bombardent la centrale nucléaire aux Irak.
The day of the strike. For some reason, our radar people switch off the radar at 6 o'clock to go to dinner. 6 o'clock in the evening. The Israeli knew precisely at what time the radar is switched off. They must have known that from that local radar at Atomic Energy. It's not Iraqi network. So they knew what's going on at Atomic Energy. Who could tell them? Must be the French. They bombed the reactor 625. The day before the bombing, there was a caravan put next to the reactor hall. There's a duct going from the reactor to experimental room. The Israelis suspected that this underground tunnel is used for uranium reprocessing. There was suddenly, appeared out of nowhere, the French brought in a caravan right next to that duct. It's underground, nobody can see, so you need a pointer. A pointer was brought and put right next to that underground tunnel. And a bomb, it apparently transmits a signal, a direction signal to the bomb. A rocket came, a missile right through that caravan and went through to the tunnel.
Les premiers accords militaires entre la France et l'Irak ont été engagés en 1976. C'était un choix militaire sans doute, mais beaucoup plus un choix politique. Dans le cadre de la politique française par rapport au monde arabe. À l'époque, il n'y avait pas la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais à l'époque, et à cette époque, je n'étais pas encore le premier responsable, on a continué d'appliquer les contrats, c'est-à-dire de livrer des armes à l'Irak.
We armed Saddam for the whole of that period, and then Saddam got too strong, so then they shifted again. And the whole thing is a very disreputable story of global power politics, with not a single moral principle to be found anywhere in the policies that are being pursued.
Dans le conflit Iran-Irak, la France est en première ligne. D'une part, elle est le principal fournisseur d'armes à l'Irak. D'autre part, elle refuse d'appliquer avec les ayatollahs l'accord nucléaire signé avec le Shah. Les otages du Liban et les attentats à Paris sont le prix de cette fermeté. La tension est à son comble. C'est la guerre.
Il y a un anora qui puis a explosé, il n'y avait plus de lumière, et on est tous tombés les uns sur les autres, et puis on a eu des blessés assez graves et d'autres plus légers.
Qu'est-ce que cherchent ces terroristes? Ils cherchent à intimider la nation, à intimider le gouvernement. En ce qui concerne le gouvernement, ils n'y arriveront pas. Nous ne céderons en aucun cas au chantage.
Selon le journal Le Monde, les services de renseignement français voient en effet dans cette multiplication d'actions terroristes un message adressé directement au gouvernement. Son expéditeur, ceux-là même qui détiennent actuellement les quatre otages français du Liban.
On est très près du Proche et du Moyen-Orient. On ne peut pas ne pas parler des otages. À votre avis, ont-ils une chance d'être libérés avant la fin de l'année?
Je ne vous donnerai aucun délai. Je ne pourrai expliquer la position de la France sur aucune condition particulière. D'autant plus que nous ne pouvons pas, même pour obtenir cette libération, renoncer à certains des intérêts primordiaux du pays.
Quels sont ces intérêts primordiaux dont parle François Mitterrand? Depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir, l'Iran réclame son dû. D'une part, le remboursement d'un prêt $1 milliard consenti à la France. D'autre part, son quota d'uranium enrichi et une aide dans la fabrication de sa bombe. Washington et Paris refusent.
Well, it's very clear that the Iranians were behind the seizure of French hostages in Lebanon in the mid-1980s. And it was for one very simple reason. They wanted to get their money back from the Eurodif agreement. The Shah had invested $1 billion in the Eurodif consortium. And the Iranians said, look, either we want our money back or we want access to that technology and access to that uranium. Right now, 1985, 1986, we're getting neither one of them. So they got their proxies in Lebanon, Hezbollah, to take French hostages, and they held them. And they kept them there for many years while the backdoor negotiations went on. And it was really only once the French had agreed to repay the Eurodif debt, this was in 1987, that the hostages began to come out one by one in a cynical exchange for nuclear technology and money.
Le 17 novembre 1986, l'otage Marcel Carton est libéré. Le même jour, la France rembourse une première tranche de 330 millions de francs du prêt iranien. Mais cela ne suffit pas à l'Iran. Le contentieux n'est pas seulement financier, il est avant tout nucléaire.
On nous donnait des avertissements, on nous disait de faire attention, on nous disait de nous protéger.
On a même eu pendant un certain temps une garde assez rapprochée.
Georges Besse refuse cette protection. La nuit même de l'échange, il est assassiné. L'homme qui a fondé Eurodif est mort. André Giraud, ancien haut commissaire à l'énergie atomique et ministre de la Défense, parle alors d'un acte de guerre. Peu après, il donnera le nom de Georges Besse à l'usine Eurodif. Les derniers otages reviennent le 5 mai 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que le gouvernement de Jacques Chirac a pu accorder aux ravisseurs? Une dépêche AFP du 6 mai 1988 donne la réponse. Paris a proposé à Téhéran d'examiner une participation directe de l'Iran au capital d'Eurodif et des garanties politiques pour l'octroi sans restriction par le gouvernement français de licences d'exportation d'uranium enrichi d'Eurodif vers l'Iran. Conclu par le Premier ministre Jacques Chirac avec l'assentiment de Washington, cet accord engage la responsabilité du président Mitterrand, réélu deux jours plus tard. Il va l'appliquer à la lettre.
Roland Dumas m'a demandé de prendre en main la reprise d'une négociation avec l'Iran. Roland Dumas m'a clairement laissé entendre, le président de la République également, car tout ceci se faisait en liaison étroite entre l'Élysée et le Quai d'Orsay, qu'il était important que cette négociation aboutisse.
Les sourires de messieurs Velayati et Dumas étaient engageants. Mardi soir, l'affaire semblait ficelée avec le règlement du problème le plus épineux, celui du consortium nucléaire Eurodif. La France payait avec intérêt les dettes contractées au temps du Shah, mais compte était tenu des compensations dues par l'Iran de la Révolution pour rupture de contrat avec les sociétés françaises impliquées. Mais ce soir-là, les micros sont restés muets. Et hier, le dernier négociateur iranien a regagné Téhéran sans piper mot.
Et à partir du moment où l'Iran refusait, et c'était bien évidemment un élément de la négociation, de se retirer du capital de Rodif, il fallait bien que nous en prenions notre parti et que nous nous efforcions d'en limiter les conséquences.
Question. Les négociations butent-elles désormais, comme l'assure notre confrère Le Monde, sur la soudaine volonté de la République islamique d'Iran de reprendre ses enlèvements d'uranium enrichi dans le cadre de sa participation rétablie à Eurodif?
Pour moi, il s'agissait de faire admettre par l'Iran que tant qu'elle n'en avait pas l'usage, il n'y avait aucune raison que nous lui livrions ces unités enrichies.
Le 29 décembre 1991, la France et l'Iran signent un accord de règlement définitif de leur contentieux nucléaire. L'Iran est rétabli dans son statut d'actionnaire de Rodif avec les droits afférents, notamment celui de retirer 10% de l'uranium enrichi par le consortium. En infraction avec la Constitution française, le président Mitterrand fait de cet accord un mémorandum avec mention secrète.
L'Iran est toujours actionnaire de Rodif à hauteur de 10% du capital.
This is a game of blind man's bluff. We're all there with a sack on our heads, feeling what's going on beyond a curtain. We can't know until the Iranians actually set off a bomb. But what you do see, you see levels of exports, patterns of technology that they're getting access to. You see them, for instance, pursuing the exploration of uranium. They now have uranium mines for the first time. So they have an unsafeguarded source of uranium. We now know that they've gotten from the Russians access to enrichment technology. So they have an unsafeguarded source of enriching that uranium. They may have access from France to low-enriched uranium from the Eurodif agreement, which they can put into the enrichment centrifuges, which accelerates the program and the ability to get weapons-grade fuel. So we've seen all these things going on. We can only fear, I'm afraid, that the Iranian nuclear weapons program is going very rapidly towards success.
Depuis 30 ans, la République nucléaire a joué un rôle majeur dans la prolifération des armes atomiques. 44 pays disposent aujourd'hui des capacités de développer la bombe. Dans plus de la moitié de ces programmes, la France a joué un rôle déterminant. Toutes les armes se vendent. Et l'arme atomique est devenue une arme presque comme une autre.
Avec quelques heures de retard, dû à un épais brouillard au-dessus de la capitale, le président Kadhafi est donc arrivé à l'Elysée après avoir brièvement rencontré Lionel Jospin. Sa visite n'est ni officielle, ni d'État, ni privée, on ne sait officiellement comment la qualifier. Elle est importante, dit-on.
Lors de son voyage à Paris, le président Kadhafi marque, à sa manière, la reconnaissance de son pays. Il demande à se rendre au Panthéon pour déposer une gerbe de fleurs sur les tombes de Pierre et Marie Curie, les pionniers français de l'atome.
C'est un symbole intéressant.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe, nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe, je fais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu cette excusade de ce que sa caille était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard à fond, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.